Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Nuit de la Vieille Europe, dirigé par Patrick PL, assisté de Pascal Esric, diffusé en direct mardi 26 avril 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 29 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission consacrée au dernier numéro d'Éléments, qui est en kiosque actuellement, mais aussi au dernier numéro de la revue Crisis sur l'Amérique. Alors, exceptionnellement, notre ami Philippe Christel n'est pas avec nous, mais je suis accompagné, bien sûr, de Pascal Esséric, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir. Bonsoir, Patrick.
Notre émission va se diviser en trois parties. D'ici quelques minutes, nous allons avoir au téléphone Michel Thibault, qui est le directeur de la publication d'Éléments, pour parler du fameux anniversaire des Pâques sanglantes. Vous avez consacré, mon cher Pascal Esséric, un entretien avec Philippe Maxence dans le dernier numéro. Et dans le prochain, Michel Thibault consacrera un reportage de ce centenaire, vu qu'il a été sur place à Dublin. C'est bien ça?
Exactement.
Une deuxième partie où nous aurons Thibaut Isabelle, le rédacteur en chef de la revue Crisis, pour son numéro consacré à l'Amérique. Et notre troisième et dernière partie sera consacrée au dossier de la revue « Origine de l'homme, le mythe du berceau unique ». Je vous interrogerai, Pascal Esséric, car c'est vous qui l'avez organisé autour du journaliste scientifique de la revue, Bastien O'Danieli. Voilà, une heure et demie bien chargée. Nous allons maintenant avoir au téléphone Michel Thibault. Bonsoir Michel Thibault, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs.
Merci bien. Vous revenez de Dublin, vous avez assisté au début des commémorations de ce centenaire. Mais pour commencer, on va peut-être revenir 100 ans en arrière, Michel. En 1916, ce début de rébellion contre l'État anglais a été un échec cuisant. Mais en plus, la population irlandaise, dans sa grande majorité, a été indifférente, même hostile.
Oui, tout à fait. Il faut dire que l'Irlande, en 1916, avait déjà subi une occupation de 400 ans. 400 ans avec la pression anglaise, les problèmes économiques, car les Anglais essayaient de s'emparer du maximum de terres. Et en fait, en 1916, la population est, on pourrait dire, commence à être anesthésiée. Et aussi, ce qui a provoqué un cas de conscience de la population, c'est que en 1914, forcément, l'Angleterre a mobilisé la jeunesse anglaise, la jeunesse irlandaise, pour aller combattre sur le front en Europe. Et les dirigeants nationalistes irlandais ont d'abord voulu lutter contre la conscription pour empêcher effectivement que de jeunes Irlandais meurent pour l'État impérialiste qui les occupait. Malheureusement, plus de 150 000 jeunes Irlandais sont partis combattre en Europe, ce qui fait que les familles ont ressenti l'insurrection de 1916 un peu comme un coup de poignard dans le dos de leurs enfants qui combattaient en Europe. Mais c'est pour dire à quel point, après 400 ans d'occupation, les Anglais avaient réussi à donner une mentalité de coloniser aux Irlandais. Et c'est ce qui a été l'élément déclencheur de l'insurrection.
Alors, au départ, c'est autour de James Connolly que cette insurrection va se mettre en route. Mais pour lui, il est pour une révolution socialiste au départ.
Alors voilà, effectivement. Mais alors, le véritable moteur de la révolte, c'est une société secrète, l'Irish Republican Brotherhood. C'est une société secrète qui a été créée en 1858 aux États-Unis par des Irlandais qui ont participé à la rébellion de 1848. Et c'est cette fraternité qui est à l'origine de nombreuses révoltes, d'assassinats de fonctionnaires anglais, etc. Et c'est eux qui vont décider de donner encore une fois un coup à l'Angleterre. Et ils vont y associer James Connolly, qui est le responsable d'un petit parti socialiste. Alors, Connolly est un peu l'inverse de Patrick Pearse, qui appartient à l'Irish Republican Brotherhood. Autant Patrick Pearse est un militant romantique, passionné de mythologie celtique, Patrick Pearse savait depuis toujours qu'il vivrait et mourrait pour l'Irlande. Et la rencontre avec Connolly est une chose extraordinaire, car Connolly va transmettre à Pearse ses idées sociales, et Patrick Pearse, on pourrait dire, va nationaliser Connolly. Et Connolly va s'entendre avec Pearse pour faire en sorte qu'il y ait deux révolutions. La première, c'est de chasser militairement les Anglais de l'Irlande, et la seconde, c'est de détruire les structures économiques, sociales, financières que les Anglais ont mis au point pour tenir cette colonie qui a été une des premières de l'Angleterre, qui s'appelle l'Irlande.
Alors, il y a un personnage qui est formidable, c'est Constance Markiewicz, qui est, elle, est d'origine polonaise, et elle va faire un peu le lien entre les deux mouvements.
Oui, Constance Markiewicz est une femme étonnante. Elle est aussi bien à l'aise dans les salons de Dublin qu'au milieu de grévistes. Elle a tout de suite compris que la révolution devait être une révolution populaire et qu'il devait aussi y avoir le règlement d'une question qui est très importante à ce moment-là en Irlande, c'est la question agraire. Car il faut savoir qu'à l'époque, l'Irlande est plus un pays agricole qu'industriel. Et la question agraire est très importante puisque les Anglais font tout leur possible pour s'emparer des terres des Irlandais, pour les donner à des colons anglais ou écossais. Et Constance Markiewicz va être à l'origine du rapprochement entre les patriotes socialistes et les nationalistes. Et elle sera elle va jouer un rôle très important dans l'insurrection. Elle va créer un mouvement de femmes nationalistes et elle va être au milieu de tous les groupes de femmes qui vont participer à l'insurrection, que ce soit pour soigner les blessés, apporter la nourriture, mais il faut le savoir aussi que beaucoup de femmes ont fait le coup de feu contre les soldats anglais.
Alors, on disait, elle n'est pas d'origine polonaise, c'est qu'elle était mariée avec un...
Elle est mariée à un comte polonais.
Un comte polonais, mais elle est irlandaise et catholique, bien sûr. Comment se décide l'insurrection, la date exactement?
Alors, c'est en 1915. Donc, l'Irish Republican Brotherhood fait une réunion. Et c'est là qu'ils se disent, il faut profiter du fait que l'armée anglaise est occupée en Europe pour lui porter un coup. Ça fait trop longtemps que les Irlandais ne se sont pas soulevés. Le dernier soulèvement date de 1848. Et le fait de voir que la population commence à accepter mentalement la colonisation est insupportable. Donc en 1915, ils décident de la date. Donc, Pâques 1916, mais il faut savoir que Pâques 1916, ce n'est pas au mois de mars comme cette année, c'était le 24 avril.
Oui.
Donc, alors, au départ, ce n'est pas une révolte sans lendemain. Il faut savoir que les volontaires nationaux dirigés par Patrick Pearse comprennent 10 000 à 12 000 hommes. La Citizen Army des socialistes, entre 150 et 200 hommes. Donc, ils peuvent compter, normalement, sur 12-13 000 hommes armés, ce qui n'est quand même pas rien. Mais en fait, il va se passer quelque chose de terrible, c'est que le commandant des volontaires nationaux de Patrick Pearse, le commandant en chef, Eoin McNeill, va au dernier moment reculer. Il va envoyer des contre-ordres pour dire aux volontaires de ne pas se rendre à Dublin, ce qui fait que le rendez-vous est à Liberty Hall, la maison des syndicats à Dublin. Ils vont se retrouver à 700-900 au lieu des 10-12 000 hommes attendus. Et là, effectivement, va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reporte l'insurrection ? Est-ce qu'on arrête tout ? Est-ce qu'on revoit les personnes chez elles ? Mais en fait, ils ont décidé de changer totalement leur plan et de faire un acte symbolique, mais très fort. Et à partir de là, ils savaient très bien qu'ils allaient, tous les dirigeants, qu'ils allaient au sacrifice, qu'il n'y avait aucune porte de sortie, mais ils l'ont décidé parce que c'était impossible d'attendre plus longtemps. Le peuple irlandais s'endormait et il commençait à être anglicisé non seulement économiquement, mais aussi mentalement. Il fallait donc le réveiller à tout prix. Et donc ils ont pris cette décision en sachant très bien qu'ils ne sortiraient pas vivants de cette aventure.
Alors ils vont occuper la célèbre poste, mais pas seulement. Je crois qu'ils vont essayer de prendre plusieurs bâtiments.
Oui, oui, oui. Alors bon, ils vont prendre la poste, ils vont prendre aussi l'usine Jameson, qui est une distillerie de whisky.
Oui, remarquez, ils ont raison.
Oui, oui, ça va quand même donner du cœur au ventre. Ils vont occuper la minoterie Bolland, l'ancien Parlement, etc. L'idée, en fait, c'est d'occuper des bâtiments très solide, aux murs très épais, parce que en fait, Connolly et Pearse pensaient que les Anglais n'iraient pas jusqu'à tirer au canon sur les bâtiments. Ce qui a été une erreur stratégique. Les Anglais n'ont reculé devant aucune destruction pour venir à bout de l'insurrection. Et effectivement, le départ s'est fait de Liberty Hall, la maison des syndicats, qui est bordée par la rivière Liffey, et les Anglais n'ont pas hésité à faire venir une canonnière qui de la rivière a tiré sur le Liberty Hall, qui a été totalement détruit. C'est pour dire que pour les Anglais, c'était impensable qu'une poignée d'Irlandais osât défier ce qui était à l'époque le plus grand empire. Il faut jamais oublier qu'à l'époque, l'Angleterre oui. était le plus grand empire. Et donc, c'était un défi intenable pour le gouvernement anglais. Et donc, ils ont employé tous les moyens. Ils ont fait venir des canons, des milliers d'hommes. Et la rébellion, partie à 850-900 personnes, a vu venir vers elle 200 à 300 des habitants de Dublin qui sont venus donner un coup de main, mais disons que l'effet général c'était soit les gens qui venaient voir mais comme des spectateurs, ou une hostilité à cause justement de ces familles qui avaient des enfants qui se battaient sur le front en Europe.
Ont-ils eu la naïveté de croire qu'en résistant peut-être deux ou trois jours, la population allait se soulever, ou c'était vraiment dès le départ le sacrifice, comme vous l'expliquiez tout à l'heure ?
Alors, surtout Pearse, la conscience très nette que le peuple irlandais était en train et était en voie de colonisation mentale. Du fait de ces 400 ans de présence anglaise. Et donc, Pearse n'avait aucun doute là-dessus, mais il pensait quand même que par ce sacrifice, ça allait provoquer une étincelle. Et même Connolly, dès le départ, a dit « Nous allons tous mourir ». Il a dit « Mais je ne pouvais pas choisir une plus belle mort que celle-ci ». Donc, ils avaient cette idée, effectivement, que le peuple irlandais ne bougerait pas sur le moment, mais l'idée que le sang versé allait réveiller quand même ce qu'il y avait de meilleur dans chaque Celte. Et il ne faut pas oublier que aussi bien Connolly que Pearse étaient nourris de mythologie celtique. Ils avaient aussi en tête les noms des Fenians, qui étaient ces guerriers de la mythologie. Et donc, pour eux, le peuple irlandais avait quand même ce fond archaïque, gaélique, qui devait quand même lui faire remonter la pente. Mais il fallait pour cela un sacrifice par le sang.
Alors, il résiste combien de temps exactement avant de se rendre ?
À peine une semaine, dès l'instant où l'Angleterre a amené des canons, les insurgés avec quelques milliers de fusils qui avaient été fournis par l'Allemagne. Mais il manquait d'armes lourdes, il manquait de canons, de mortiers. Ce qui fait que dès que la poste a commencé à être bombardée, la moitié de la poste s'est effondrée, James Connolly a été grièvement blessé, et sur les 900 combattants, il y a eu environ 400 tués ou blessés, ce qui est quand même un nombre très important.
Qui est impressionnant, oui.
Hein, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, Patrick Pearse a essayé à un moment de lancer un appel qui disait « Tous les Irlandais et Irlandaises qui méritent ce nom viendront à l'avant pour aider leur patrie commune en cette heure solennelle. » Et oui. Ce qui est... quand ils ont vu que vraiment la partie était trop inégale, et que les Anglais commençaient à détruire Dublin, mais de façon assez incroyable. Il y a eu 2000 morts et blessés dans la population civile.
Ouais.
Et donc,
ce qui était un peu inutile, vu que c'était des bâtiments à attaquer. Ils n'étaient pas obligés d'aller attaquer
Exactement.
Le reste de Dublin.
Exactement. Et il ne faut jamais oublier que le colonialisme anglais a été extrêmement féroce. Et pour eux, les Irlandais... C'était comme un Zoulou, ça valait pas plus. Hein. Pour eux, les Irlandais étaient des gens sales, qui parlaient une langue incompréhensible, le gaélique, etc. Et donc, ils ont été... pour eux, il n'y avait pas à hésiter. Ils pouvaient détruire, tuer, etc. Alors que de l'autre côté, lorsque les insurgés ont fait des prisonniers anglais, ils les ont toujours bien traités. Et certains, d'ailleurs, ont témoigné après qu'ils avaient été traités avec honneur.
Alors, les principaux insurgés n'auront pas le statut de prisonniers de guerre. L'Angleterre va leur refuser, donc ils vont être très rapidement fusillés. Enfin, en tout cas, les principaux leaders de l'insurrection.
Oui, alors, là aussi, c'est... Surtout James Connolly, qui avait fourni à ses 150-200 hommes un uniforme pour la Citizen Army, dans l'espoir que s'ils étaient faits prisonniers, ils auraient le statut de prisonniers de guerre. Mais là encore, c'était accordé aux Anglais une éthique qu'ils n'avaient pas, hein. Pas plus qu'ils n'ont accordé au moment des grèves de la faim. À l'époque de Thatcher, le statut de prisonnier politique.
Ouais. Hein,
ils ont toujours été impitoyables vis-à-vis des Irlandais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Connolly prévoyait pour la réforme agraire de s'appuyer sur une structure très très ancienne, une structure commune agraire celtique, pour reconstituer le pays. Ce qui est extrêmement intéressant. Et un autre aspect de Connolly dont on parle peu, Connolly a laissé beaucoup de textes théoriques, des textes socialistes. Alors il faut savoir qu'il n'a jamais séparé le patriotisme et le socialisme. Mais déjà, avant la guerre de 14, il s'est opposé au sein de l'internationale socialiste et l'internationale communiste à ceux qui voulaient faire des changements qu'on appellerait aujourd'hui sociétaux. Il s'est opposé à la suppression du mariage. Il était contre les attaques contre les religions. Il s'est méfié de tous ceux qui voulaient faire venir des idées qui détruisaient en fait une certaine structure de la société. Et c'est ce qui explique peut-être le silence qu'il y a aujourd'hui sur les textes théoriques de James Connolly.
Alors ils vont être fusillés. Il y en a deux qui vont. Il y a deux personnes qui vont échapper à la mort. C'est Edmond de Valera parce qu'il a la double nationalité américaine, donc il va être gracié. Et Constance Markievicz, qu'on parlait, qui a cette phrase célèbre: j'aurais souhaité que vous eussiez la décence de me fusiller. Elle va rester en prison, elle.
Alors, elle va rester en prison, elle sera libérée quelques années après, et effectivement, il y aura 16 exécutés, et le dernier, en fait, qu'on oublie souvent, mais qui est rentré aussi dans le panthéon des héros de la rébellion, c'est Roger Casement. Roger Casement était parti en Allemagne chercher des armes, et essayer de recruter parmi les prisonniers anglais que les Allemands avaient fait des jeunes d'origine irlandaise pour les ramener en Irlande. Alors il faut dire que dans sa tentative de recruter des Irlandais, ça n'a pas tellement fonctionné. Sur les milliers d'Irlandais qu'il y avait à cette époque de prisonniers en Allemagne, il en a ramené que 5 ou 6. Hein.
Ouais.
Mais il est venu aussi chercher des armes. Malheureusement, le bateau n'a jamais pu accoster. Et en revenant en Irlande, Roger Casement a été arrêté, jugé. Alors lui, il n'a pas été fusillé, il a été pendu. Mais c'est le dernier exécuté qui est lié à la révolte de 1916.
Alors, Michel Thibault, vous avez été aux premières cérémonies de ce centenaire à Dublin. Comment réagit aujourd'hui la population? Est-elle purement dans le festif et dans l'anniversaire? Ou se sent-elle encore concernée autour de ce drame de la Pâque sanglante?
Alors, à voir ce que j'ai vu, la population a commémoré vraiment avec beaucoup de ferveur. Cette ferveur qui manquait en 1916, elle l'avait 100 ans après. Hein. Donc c'est l'héritage du sacrifice de 1916, et que ce soit pour le défilé militaire ou des plus de 300 000 personnes qui étaient là, qui applaudissaient, qui brandissaient des drapeaux irlandais, que ce soit les portraits de Connolly, de Pierce, de McDermott, etc., qui ornaient les pubs, les boutiques, les façades. Il faut dire que vraiment Dublin est pavoisé pour le centenaire, pour commémorer Pâques 1916. Il faut savoir que là où il y avait la maison des syndicats, Liberty Hall, aujourd'hui s'élève une tour, une sorte de centre d'affaires, mais ils avaient mis une immense toile peinte où on voyait les personnages de l'insurrection en action. On retrouve ces toiles peintes gigantesques un peu partout dans Dublin. Et on sent vraiment que la population est fière. Il faut aussi savoir que des dizaines de milliers d'Irlandais sont arrivés des États-Unis, du Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc., pour vraiment venir se ressourcer. Et le gouvernement irlandais avait installé 5000 sièges devant la poste principale, là où se terminait le défilé militaire, 5000 places réservées aux familles des descendants de l'insurrection. Donc ça a été très bien pris en compte. Alors bon, ce qu'on peut se demander, c'est que est-ce que tout ce que voulaient les insurgés de 1916 a-t-il été réalisé? Et là, c'est le président irlandais Higgins lui-même qui l'a dit. Il a dit « Malheureusement, tout n'a pas été terminé ». Et alors, qu'est-ce qui n'a pas été terminé? Il y a tout d'abord le problème de la langue.
Oui, qui est en perte de vitesse complète.
Voilà, il est tout à fait incroyable que les Irlandais d'aujourd'hui parlent la langue de l'occupant, de ceux qui les ont occupés. Ça, c'est un problème qui est quand même extrêmement important. On pense dans sa langue, et quand on pense dans la langue du colonisateur, c'est quand même extrêmement grave. Alors, c'est un problème quand même qui ressort aujourd'hui. Et le second point quand même qui fait mal, c'est qu'il y a toujours 6 comtés aux mains de l'impérialisme anglais. Et ces 6 comtés étaient les comtés les plus industrialisés, là aussi où l'Angleterre avait établi des colons. Et donc, il est quand même anormal, à une époque où les Nations Unies engagent des conflits pour un oui, pour un non, comment se fait-il que l'Angleterre détienne encore 6 comtés du territoire irlandais au mépris du droit international? C'est quand même quelque chose d'impensable à une époque où on parle de droits des peuples, droits de l'homme, etc. Le premier droit, c'est quand même bien celui de pouvoir vivre sa nationalité.
Très bien, merci Michel Thibault. Peut-être au niveau sur place, vous avez peut-être trouvé quelques publications. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se nourrir politiquement en allant à Dublin cette année?
Alors,
sur le plan culturel, bien sûr.
C'est une chose là aussi qui est rassurante. Des dizaines d'ouvrages sont sortis. Alors, certains sont des ouvrages plus spécialisés. Par exemple, il y a des livres qui sont sortis sur les femmes dans l'insurrection. Un autre ouvrage sur le rôle très important qu'a joué le mouvement scout, des jeunes scouts gaéliques, pour transmettre les messages durant les combats. Il faut savoir, alors là, j'incite nos auditeurs à essayer de le commander. Il y a un coffret de 3 CD qui est sorti de Chants révolutionnaires irlandais, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et alors, il y a aussi un film qui va sortir fin 2016, qui s'intitule « The Rising » et qui raconte toute l'insurrection. Et il y a actuellement, on peut trouver en DVD, mais malheureusement, c'est pas encore doublé en français, mais en anglais, il y a une série de DVD qui s'appelle « 1916, Sushtar na Kaska ». C'est une série TV, en fait, il y a 11 épisodes, et qui raconte comment que 11 des dirigeants se sont retrouvés à Pâques 1916 au quartier général, comment en sont-ils arrivés là? Et donc c'est une série passionnante, il faut espérer donc qu'elle sera doublée en français, mais elle existe d'ores et déjà, on peut la commander en anglais.
Voilà, bah écoutez, merci à vous Michel Thibault, nous de notre côté, et on retrouvera Michel Thibault dans le prochain numéro d'Éléments, votre reportage et vos photos sur ce centenaire à Dublin. Merci à vous.
Je vous remercie beaucoup, bonsoir.
Nous allons nous retrouver d'ici quelques secondes, on va faire une petite pause, mais restez sur Radio Courtoisie dans les Chroniques de la Vieille Europe, car nous allons avoir d'ici peu Thibaut Isabelle de la revue Crisis, et on parlera de son numéro sur l'Amérique, autre grande nation des Irlandais. Voilà, de retour pour cette deuxième partie. Nous allons avoir au téléphone Thibaut Isabelle, rédacteur en chef de la revue Crisis. Thibaut Isabelle, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends très bien.
Merci à vous d'être sur l'antenne de Radio Courtoisie. Alors, vous allez... C'est notre ami Pascal Essery qui va faire l'entretien sur votre dernier numéro. Vous avez fait un numéro consacré à l'Amérique. C'était naturellement par rapport aux élections ou c'était le hasard total ?
Oh non, bien sûr, on parle beaucoup de la politique américaine actuellement à cause des primaires et puis de la perspective des élections présidentielles. Mais l'Amérique, au fond, c'est et ça reste un sujet brûlant. Tout simplement parce que les États-Unis représentent incontestablement aujourd'hui la principale puissance de la planète. Bon, en soi, évidemment, quelle que soit l'époque, il y a toujours une puissance dominante. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis posent un problème particulier ? Eh bien parce qu'en fait, l'attitude des Américains à l'égard du reste du globe est souvent profondément paternaliste. C'est là que ça pose problème, parce que les États-Unis utilisent leur puissance et le rôle central qu'ils jouent sur la scène diplomatique pour, au fond, infantiliser très souvent les autres États de la planète. Il devient très difficile de se comporter en adulte sur la scène internationale dans un contexte comme celui-là. C'est pourquoi on a de plus en plus besoin aujourd'hui de voir réémerger ce qu'on appelle un monde multipolaire. Les États-Unis sont devenus, particulièrement depuis la chute du mur de Berlin, le centre d'un monde unipolaire, un monde qui est uniquement articulé autour d'eux, et on a besoin de remettre en place une perspective qui soit multiple. Alors, l'influence américaine sur le monde reste très forte, parce qu'il y a ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux, le pouvoir des images, le pouvoir de la culture, qui fait que les États-Unis sont vraiment perçus comme une puissance incontournable. Mais non, on peut contourner aujourd'hui la puissance américaine. Il y a les pays émergents, il y a la Chine, il y a la Russie qui a eu beaucoup de mal à digérer l'effondrement du communisme, mais qui commence à s'en relever et à jouer un rôle important. Donc il y a des forces alternatives. Il faut mettre en place un monde multipolaire. Le problème, c'est que les élites en France et à vrai dire dans la plupart des pays occidentaux sont très imprégnées par le pro-américanisme. Les élites, donc à la fois les politiciens, les grands chefs d'entreprise, les hauts fonctionnaires, les journalistes. Et c'est ce pouvoir culturel-là qu'il faut contourner. Il faut faire en sorte de faire comprendre aux populations que on ne doit pas écouter le pro-américanisme souvent fanatique de nos élites, qui est au fond un pro-américanisme de classe. Nos élites défendent le système américain parce que ce système les conforte dans leur position. Mais non, un monde multipolaire peut émerger aujourd'hui et ça implique des changements de perspective assez radicaux.
Alors, une question de Pascal Essérick.
Alors oui, il y a beaucoup d'articles de grande qualité dans ce numéro de Crisis consacré aux États-Unis, mais j'en ai pour ma part retenu deux qui me semblent particulièrement importants. Ils ne sont pas sans lien d'ailleurs. Alors, le premier est consacré au style paranoïde dans l'industrie culturelle américaine, et le second, c'est celui de Michel Lhomme, concerne la politique carcérale aux États-Unis. Mais... on ne pouvait pas donc laisser passer l'occasion de parler cinéma avec Thibaut Isabelle, puisque cette semaine, c'est la sortie au cinéma de Captain America, et qui est la figure même du style paranoïde de l'industrie culturelle américaine auquel vous avez consacré cette étude. Alors, qu'est-ce que c'est le style paranoïde ?
Alors, le style paranoïde, ça fait référence à une expression qui était utilisée par Richard Hofstadter, une expression qu'il a popularisée en tout cas à partir de 1965, dans un livre qui s'appelle « Le style paranoïde dans la politique américaine ». Alors, en soi, le propos d'Hofstadter consiste à dire que la paranoïa constitue un aspect essentiel de la culture américaine. Évidemment, quand on fait référence à une atteinte psychologique comme celle-là, comme la paranoïa, on s'imagine immédiatement qu'on fait référence à une atteinte psychiatrique. Bien sûr, le propos d'Hofstadter n'était pas de dire que tous les Américains étaient bons à enfermer dans des cliniques psychiatriques, ça va sans dire. Mais précisément, la notion de style paranoïde permet de définir autre chose. C'est au fond, ça désigne le fait qu'il y a dans la culture américaine une tendance à la paranoïa, qui ne relève pas de la folie furieuse, mais qui relève simplement d'une tendance. Il y aurait, dans la culture américaine de manière générale, une manière de se représenter le monde qui serait, qui relèverait d'une paranoïa ordinaire. Autrement dit, la culture américaine favoriserait l'émergence de modes de pensée qui se rapprochent de la paranoïa. Qu'est-ce qu'on entend par paranoïa dans la littérature psychiatrique ? Eh bien, on peut la résumer en trois composantes principales. D'abord, dans la paranoïa, il y a un aspect de mégalomanie quand même, parce que finalement, le paranoïaque a tendance à s'idéaliser lui-même. Et notamment, il s'idéalise sur un plan moral. Le paranoïaque est persuadé d'être totalement irréprochable. L'autre aspect important de la paranoïa, c'est au contraire la diabolisation des autres. Soi-même, on s'idéalise moralement, mais on est persuadé que tous les autres sont des esprits diaboliques, mesquins, méchants, des gens profondément pervers. Et puis, le troisième aspect de la paranoïa, c'est celui qui relie les deux premiers ensemble, c'est le fait que tous ces êtres profondément méchants qui nous entourent s'en prennent particulièrement à nous. Nous sommes leurs cibles privilégiées, justement parce que nous sommes particulièrement gentils. Et donc, ce que disait Richard Hofstadter, c'est qu'il y aurait, dans la mentalité américaine en général, et dans la culture populaire américaine en particulier, une tendance qui consisterait soi-même à s'idéaliser du point de vue du caractère national, à diaboliser tous les ennemis de l'Amérique et à considérer que tous ces ennemis s'en prennent d'une manière privilégiée à l'Amérique justement parce que l'Amérique est tellement gentille. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouverait, selon Hofstadter, dans l'ensemble de la culture populaire américaine et dans l'ensemble des mentalités américaines.
Alors, plus que vous dites aussi que plus que dans n'importe quel pays dans le monde, c'est aux États-Unis que la frontière entre fiction et réalité se brouille. Et oui. vous allez jusqu'à parler d'une hypnose à l'échelle nationale.
Oui, c'est ça. Alors c'est une expression qui a été utilisée par des auteurs américains, hein, parce que vraiment tout ce dont je suis en train de parler, c'est essentiellement aux États-Unis que sont des esprits critiques américains qui mettent en avant ce type de problématique. Il faut remarquer qu'il y a aux États-Unis un tel poids de la culture populaire sur les mentalités que les gens sont imprégnés et sont phagocytés par le style paranoïde. Ça se manifeste à plein d'égards, mais par exemple, dans les comic books américains, donc dans les BD américaines, d'une manière tout à fait ordinaire, on constate que les méchants, il y a toujours des méchants d'ailleurs, c'est quand même assez typique de la culture américaine, les méchants se représentent eux-mêmes comme des méchants. Il y a vraiment que dans les bandes dessinées américaines où on voit un groupe de super-vilains, dirigé par Helmut Zemo, se baptiser les maîtres du mal. On sait bien que dans la réalité, les gens qui font des choses qu'on peut considérer comme maléfiques ne se représentent pas eux-mêmes comme des esprits maléfiques. Oui. Les Américains, notamment sous l'effet de leur culture populaire, sont persuadés que si. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un ennemi de l'Amérique puisse se représenter autrement que comme l'émissaire de Satan. Du coup, ça amène, si vous voulez, une forme de mentalité collective qui va bien dans le sens de la paranoïa. Et oui, ça brouille le rapport à la réalité, parce que tout simplement, les Américains n'ont plus conscience de ce qui est réel et de ce qui est fantasmé, de ce qui est imaginaire. On en a des exemples vraiment innombrables dans la vie américaine, mais par exemple, la mise en scène de la vie des stars dans la presse People, qui tend à transformer les acteurs en personnages de cinéma. Il faut absolument que Tom Cruise ait dans la réalité une vie aussi palpitante, une vie sentimentale aussi palpitante que celle qu'il a sur les écrans. C'est le fait que les hommes politiques américains soient sans cesse obligés de se présenter comme des modèles d'intégrité morale. Il faut qu'ils aient eu un passé extraordinaire, que dans l'armée, ils aient accompli des exploits, exactement comme Harrison Ford qui, dans Air Force One, joue le rôle d'un président américain qui est un ancien marine. Ou bien aussi, on a au cinéma des présidents américains qui sont d'anciens pilotes de chasse. Enfin, il faut que dans la réalité, les hommes politiques ressemblent vraiment au modèle qu'on a sur les écrans. C'est le fait que, par exemple, Ronald Reagan, lorsqu'il a lancé son grand programme de conquête spatiale militaire au début des années 80, ait choisi délibérément de le baptiser programme Star Wars, en référence au film. L'imaginaire cinématographique imprègne profondément la politique américaine. Et puis bon, après tout, Ronald Reagan dont je parle était lui-même un ancien acteur. On sait que Arnold Schwarzenegger a lui-même fait une grande carrière politique aux États-Unis. Il avait été utilisé comme ministre par George Bush père. Ensuite, il a fait sa carrière comme sénateur de l'État de Californie. Donc, il y a vraiment aux États-Unis une manière de brouiller la frontière entre réalité et fiction parce qu'il y a un désir, en fait, de faire se conformer la réalité américaine à la fiction telle qu'on la voit sur les écrans. Il faut que le président américain ressemble aux acteurs américains. Tout ça fait partie d'un même univers dans l'esprit de la population américaine.
Ce style paranoïde que vous évoquez n'est pas simplement associé à la culture populaire américaine, mais on le retrouve aussi dans la politique étrangère des États-Unis.
Ah bah oui, c'est évident. Quand on voit, par exemple, comment est-ce que George Bush, je parle de George Bush, George W. Bush maintenant, le fils, quand on voit la façon dont il a représenté la situation internationale en parlant d'axe du mal, Axis of Evil, enfin, on croirait entendre, encore une fois, là, le nom d'un groupe de super-héros, enfin, de super-vilains. Il y a une manière paranoïaque de représenter les choses, parce qu'il y a l'idée que les ennemis de l'Amérique représentent le mal absolu, ce ne sont pas des adversaires politiques, non, c'est le mal absolu, et les États-Unis représentent l'axe du bien. Il y a vraiment l'idée qu'il y a c'est la destinée manifeste américaine, hein, ça existe depuis les pères fondateurs, les États-Unis sont persuadés que c'est un peuple élu de Dieu et qu'ils sont présents sur Terre pour apporter la bonne parole à l'ensemble de l'humanité. Et donc ceux qui s'opposent aux États-Unis sont nécessairement des créatures du mal qui persécutent le peuple américain précisément parce que eux sont les élus de Dieu. Et une bonne partie de la géopolitique américaine s'explique de cette façon et s'interprète de cette façon, à la fois dans l'interventionnisme tous azimuts des Américains qui croient de leur devoir d'intervenir partout sur la planète pour, encore une fois, prêcher la bonne parole, mais aussi parce que même lorsqu'ils font preuve d'isolationnisme, bah, c'est un peu l'envers de la médaille. Y a des moments où, dans des élans d'euphorie, d'enthousiasme, ils interviennent partout pour apporter la bonne parole, mais aussi, comme ils ont le sentiment souvent d'être persécutés par l'ensemble de la planète, alors il y a des moments où ils refusent d'intervenir, même quand ce serait nécessaire, ils s'isolent totalement du reste de la planète parce qu'ils ne veulent plus entendre parler du monde extérieur. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une attitude paranoïaque, et ces alternances d'humeur qu'on retrouve dans la géopolitique américaine et dans les mentalités américaines, c'est typique d'une forme de bipolarité qui est elle aussi constitutive de la paranoïa. Et puis enfin, un dernier point, je parlais du brouillage entre la réalité et la fiction, mais il faut bien comprendre aussi que ce brouillage ne vaut pas seulement en ce qui concerne le peuple américain. L'hypnose, elle n'est pas seulement à l'échelle nationale, c'est aussi une hypnose à l'échelle internationale. Il y a vraiment pour les Américains le souci, à travers le soft power, là encore, donc le pouvoir de l'image, de se présenter aux yeux du monde comme un peuple dominateur. Et bien sûr, personne ne remet en cause la puissance américaine. Mais cette puissance aujourd'hui, elle est tout de même ébranlée à beaucoup de niveaux. Il y a des concurrents sérieux à l'hégémonie américaine. Seulement, les États-Unis veulent encore continuer à donner l'image d'un peuple qui est au centre du jeu et qui est seul au centre du jeu. Et donc, ils utilisent leur pouvoir culturel, et le cinéma notamment, mais pas seulement, pour continuer à donner d'eux à l'ensemble du monde. Ils veulent continuer de donner d'eux l'image d'un peuple qui est tout simplement incontournable. Donc vraiment, cette dimension fantasmatique des États-Unis, elle vaut à l'interne, mais elle vaut aussi à l'extérieur. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer.
Alors, du cinéma à la prison, la frontière est assez fine, même très fine, si l'on vous entend bien. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur une étude magistrale de Michel Lhomme, un collaborateur régulier de Crisis, une étude sur la démocratie carcérale américaine. Et les chiffres qu'il donne font froid dans le dos. Depuis 1980, aux USA, la population carcérale a été multipliée par 5. Plus de 2 millions de citoyens américains sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et il fait ce constat choc, il y a plus d'Afro-Américains emprisonnés aux USA qu'il n'y avait d'esclaves en 1850. Ce sont des chiffres stupéfiants, non ?
Bah oui, évidemment. Il y a vraiment un problème considérable aux États-Unis avec le système carcéral. Bon, il faut avoir en tête qu'il y a un peu plus de 700 détenus pour 100 000 habitants aux États-Unis. À titre de comparaison, en France, on tourne autour de entre 90 et 100 détenus pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a au moins 7 fois plus de détenus en pourcentage, hein, aux États-Unis par rapport à la France. Donc vous imaginez, ça représente un pourcentage de la population qui est vraiment gigantesque. Les États-Unis ont vraiment ont vraiment une politique du tout carcérale. Tout leur système judiciaire est axé sur l'emprisonnement des criminels. On emprisonne à tour de bras des détenus qui sont accusés de crimes, de délits parfois extrêmement mineurs. Et non seulement on les incarcère à tour de bras, mais on les incarcère aussi pour longtemps. Donc ça aboutit vraiment à un problème d'engorgement des prisons dont les États-Unis ont beaucoup de mal à se défaire. Cette politique du tout carcéral débouche sur un véritable fiasco économique. Ça coûte tout simplement une fortune.
Pourquoi et comment les États-Unis sont-ils mis à pratiquer une incarcération de masse comme...
Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, évidemment. Il y a toujours eu, il y a depuis longtemps, en tout cas aux États-Unis, une politique carcérale qui est très active. Mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent, en tout cas, cette situation catastrophique. D'abord, il y a déjà le principe du plaidé coupable. C'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Mais aux États-Unis, si vous voulez, vous pouvez plaider coupable. Et lorsque vous plaidez coupable, vous pouvez espérer une réduction de peine. En tout cas, vous pouvez craindre des peines plus lourdes si vous ne plaidez pas coupable. Donc comme les peines, en effet, peuvent s'avérer extrêmement lourdes, la plupart des détenus, même quand ils se croient sincèrement innocents, sont amenés à plaider coupable, tout simplement parce que s'ils ne plaident pas la culpabilité, ils savent qu'ils risquent une peine d'emprisonnement qui sera démesurément longue. Donc ce système du plaider coupable amène des innocents, au lieu de chercher à prouver leur innocence, à se décrire eux-mêmes comme des coupables dans l'espoir d'obtenir des réductions de peine. Ça, c'est déjà un premier facteur très important. Après, il y a un autre facteur évidemment essentiel, c'est qu'il y a eu une politique du tout carcéral aux États-Unis qui s'est mise en place dès les années 70, mais qui s'est particulièrement développée dans les années 80 sous la présidence de Ronald Reagan, et notamment dans le cadre de la guerre contre la drogue. Alors évidemment, c'est pas juste la drogue qui explique l'inflation du monde carcéral, mais quand même, si vous voulez, les États-Unis ont voulu mener au nom d'une perspective morale une lutte absolue contre la drogue, qui fait qu'on met des moyens considérables sur la table pour emprisonner non seulement les gens qui gèrent le trafic, mais aussi poursuivre les gens qui sont des consommateurs de drogue. Et forcément, ça représente des populations très importantes. Alors, on peut évidemment souscrire au fait de lutter contre la drogue. La question n'est pas là en tant que telle. Mais il faut bien comprendre que, de manière générale, quand on criminalise quelque chose comme la drogue, le but de l'incarcération est souvent dissuasif. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'intention, dans la plupart des États en tout cas, de mettre toutes les personnes qui sont impliquées dans le monde de la drogue derrière les barreaux. Parce que par exemple, imaginez qu'on décide de mettre en prison, en appuyant sur un bouton, voilà, toutes les personnes qui en France consomment du cannabis. On peut être contre la consommation de cannabis, mais s'il fallait faire ça, vous imaginez la quantité de population qui se retrouverait derrière les barreaux. Si on pénalise la drogue, ça a un but dissuasif, on peut mettre quelques personnes derrière les barreaux dans certains cas précis, mais si on met tout le monde, ça va vite devenir ingérable. Or, jusqu'à un certain point, c'est ce que font les États-Unis. Donc ça a abouti à une inflation du nombre de détenus qui est devenue tout simplement ingérable par le système et puis qui correspond à un coût financier qui est encore une fois exorbitant.
Alors, vous dites ingérable par le système. Enfin, pour l'instant, d'ailleurs, l'étude de Michel Lhomme le montre. Pour l'instant, c'est surtout la prison business. C'est surtout une affaire de gros sous.
Et oui, ça, parce que c'est privé. Il faut l'expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Eh oui. En fait, tout est un business aux États-Unis. Même la prison, c'est un business. C'est géré. On gère les prisons comme des entreprises privées. Enfin, ce sont des entreprises privées qui gèrent en tout cas beaucoup de prisons. Le but, c'est aussi d'alléger les coûts hein, pour l'État, pour les États, parce que encore une fois, les coûts deviennent vraiment ingérables pour les États. Ils ne peuvent plus les prendre en charge par eux-mêmes. Donc, en fait, on place les entreprises privées à la tête des prisons, et ce sont des prisons qui gèrent les détenus. Mais forcément, ces entreprises privées, elles cherchent à faire des bénéfices. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, par exemple, les prisonniers sont contraints à travailler sans salaire, et donc ce travail, si vous voulez, permet d'apporter des revenus qui viennent en quelque sorte couvrir les coûts des prisons. Alors, même si les États, en fait, mettent quand même la main à la poche, hein, donc finalement, c'est quand même de l'argent public qui part dans les poches d'entreprises privées indirectement. Mais enfin, il n'empêche qu'il y a tout un business carcéral qui se met en place du fait de l'action de ces entreprises privées. Et puis ça pose aussi un problème à la fois moral et politique, parce que ces entreprises privées qui gèrent les prisons s'organisent en lobby, comme tous les groupes privés aux États-Unis, et donc ce lobby très puissant favorise lui-même au niveau politique une politique sécuritaire tous azimuts qui vise à l'incarcération de masse. Pourquoi ? Bah parce que ça augmente leurs clients. Si vous voulez, plus il y a de détenus dans les prisons et plus ces entreprises gagnent de l'argent grâce au système carcéral. Donc vraiment, ces lobbies très puissants, très influents jouent sur la politique en encourageant une politique du tout sécuritaire et du tout carcéral et puis en retour s'en mettent plein les poches en profitant du système.
Oui, et c'est vrai qu'on arrive à des situations assez ubuesques, puisque lorsqu'il était gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger avait proposé un plan permettant de renvoyer chez eux 22 000 condamnés pour des délits mineurs.
Mais oui, et c'est pour ça qu'en fait, le fond du problème, c'est même pas de savoir pour quel type de politique on est. C'est qu'il y a juste on atteint un point d'absurdité dans le système carcéral américain, parce que on peut être favorable à une politique répressive très ferme, mais personne ne souhaite des aberrations comme la libération de détenus de manière arbitraire en cours de peine. Il y a aussi d'autres gouverneurs qui ont décidé que tous les détenus parvenus au quart de leur peine et purgeant des peines correspondant à un certain type de délit allaient être systématiquement libérés. Pourquoi ? À partir du moment où on décide d'incarcérer des gens, encore une fois, il y a un but dissuasif derrière tout ça. Il faut que les peines soient cohérentes. Si vous dites que vous allez incarcérer les gens qui vont être incarcérés pendant de très longues années, et puis que finalement vous en libérez toute une partie arbitrairement au bout d'un an ou deux, vous vous couvrez de ridicule, même par rapport aux criminels et aux délinquants. Donc il faut avoir une politique carcérale que l'État puisse assumer, et lorsqu'on se livre à des actes de libération massive qui relèvent du laxisme, on se tire une balle dans le pied du point de vue de l'image qu'on donne auprès de l'opinion publique et auprès des délinquants. Donc il faut en fait surtout avoir une politique cohérente, savoir exactement ce qu'on fait, et puis comprendre que le système carcéral ne peut pas gérer tous les problèmes de la société. Si vous incarcérez des détenus et qu'ils en sortent 10 ans après, ou pire 2 ans après, parce que vous les libérez à l'occasion du genre de libération systématique qui ont été mises en œuvre, et puis que vous libérez des bêtes fauves qui sont bien pires au moment de leur libération qu'au moment du début de leur incarcération, parce qu'il faut voir aussi l'état de délabrement des prisons, la surpopulation carcérale, et puis tout ce qu'implique aussi cette surpopulation. Bon, il y a un moment où le système carcéral, au lieu d'aider la société à mieux fonctionner, provoque au contraire un enlisement de la situation et favorise la criminalité au lieu de la réduire. Donc, à côté du système carcéral, qui doit être équilibré et qu'il faut avoir les moyens de mettre en œuvre par rapport à la quantité de détenus qu'on décide d'incarcérer, il faut aussi une politique sociale qui tende à limiter les crimes et les délits et qui fasse que la société dans son ensemble soit un peu plus équilibrée. C'est ce que les États-Unis vraiment ont totalement perdu de vue depuis 30 ou 40 ans.
Alors, la conclusion de l'étude peut surprendre, hein, puisque Michel Lhomme explique que les politiciens en Europe ont repris le discours sécuritaire en s'inspirant du modèle États-Unis, enfin du modèle des États-Unis de lutte contre le crime. Finalement vous voulez vider les prisons françaises ? Est-ce que vous êtes un de ces bobos qui veut vider les prisons ? Vous trouvez peut-être qu'il n'y a pas assez d'insécurité, de racailles dans les rues ?
Alors, je ne vais pas parler à la place de Michel Lhomme, bien sûr, je vais donner mon avis, mais je pense que mon avis n'est pas très, très éloigné du sien en l'occurrence. Bon, d'abord, c'est pas à proprement parler sur le système carcéral que la France imite les États-Unis, parce que pour l'instant, on est vraiment très très loin de l'engorgement carcéral américain, même si en France, il y a aussi beaucoup de surpopulation carcérale, etc. Mais là où il y a vraiment un alignement de la France sur les États-Unis, c'est dans l'esprit sécuritaire. Et si vous voulez, le problème de l'esprit sécuritaire, c'est pas juste est-ce qu'on est pour ou contre la délinquance ou est-ce qu'on est pour ou contre la criminalité. L'esprit sécuritaire, c'est un peu l'esprit de caserne qui tend à l'emporter partout dans nos villes. C'est le fait que finalement, les citoyens ont perpétuellement envie d'être rassurés. On est rassuré quand il y a un flic à chaque coin de rue, un soldat avec une mitraillette au coin de la rue pour vous persuader que les terroristes peuvent rien faire contre vous et que les criminels vont avoir la vie dure. C'est quand même, ça relève du fantasme plus que de la réalité. On rejoint ici la thématique du brouillage entre fiction et réalité. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Et puis, il y a aussi le fait que Il faut accepter qu'il y ait dans la société des choses qui ne soient pas perpétuellement encadrées. Est-ce qu'on a envie d'être perpétuellement tracé lorsqu'on prend son téléphone portable, lorsqu'on utilise sa carte bleue? Est-ce qu'on a envie qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance qui filment ce qui se passe dans la rue, mais qui aussi bientôt vont s'assurer des bonnes mœurs des citoyens lorsqu'ils sont présents chez eux, dans la limite de leur maison? Enfin, est-ce qu'on a envie d'un traçage systématique? Est-ce qu'on a envie d'une société de la transparence généralisée? Précisément, je pense que la force de nos démocraties occidentales a été pendant toute une période de préserver une sphère privée distincte de la sphère publique, une sphère d'intimité distincte de ce qui est soumis à l'opinion populaire et à la vindicte populaire. Et finalement, l'idéologie sécuritaire qui nous vient en droite ligne des États-Unis, c'est aussi une idéologie de la transparence généralisée et du traçage généralisé. Est-ce que c'est ce type de société qu'on souhaite? Je pense que c'est un problème qui est au fond indépendant de la rigueur morale qu'on veut manifester dans beaucoup de domaines. C'est un problème qui est aussi indépendant jusqu'à un certain point de la lutte contre la délinquance. Ce sont des questions distinctes. Et puis, je suis pas certain que ce soit la bonne manière de lutter contre la délinquance de toute façon. La délinquance, c'est un problème qui se règle de bien des manières. C'est un problème qui se règle par la justice. C'est un problème qui certainement se règle aussi en partie par les prisons, mais qui se règle par l'éducation, qui se règle par un meilleur encadrement des enfants, qui se règle par une vie familiale plus équilibrée. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et vraiment tout axé sur le sécuritarisme, je crois que c'est vraiment se voiler la face et ne pas voir toute la dimension sociétale des problèmes et même toute la dimension morale au fond. Parce que la sécurité, l'obsession pour la sécurité fait perdre de vue l'aspect moral de toutes ces questions.
Alors, je voudrais, pour conclure, dire un petit mot, enfin que vous nous disiez un petit mot de Jean-Philippe Imarijon, qui vous donne un entretien. Nous l'avons reçu
deux fois.
Alors parce que j'aimerais que le titre de son entretien est assez choc, puisque c'est la chute de la maison Amérique.
Eh oui. Ce que montre fondamentalement Jean-Philippe Imarijon dans ce texte, c'est que il y a un jeu des États-Unis par rapport à l'image qu'ils donnent d'eux dans le monde. On en revient encore une fois à cette idée de soft power, de pouvoir doux et de pouvoir de l'image. Personne ne remet en cause la puissance américaine. Mais ce que signale Jean-Philippe Imarijon, c'est que les États-Unis, en fait, sont beaucoup moins puissants que ce que leur image, que ce que l'image qu'ils véhiculent à travers le monde peut laisser penser. Et ça pose des problèmes réels, notamment parce que les États-Unis vivent essentiellement à crédit par rapport au reste du monde. L'économie américaine est dépendante du reste de la planète, alors parce que les échanges commerciaux américains sont déséquilibrés. Ça veut dire que le déficit du pays est croissant, ce qui concrètement signifie que les Américains consomment de plus en plus au fil du temps ce que produisent les autres. Donc, l'économie américaine, en fait, elle repose essentiellement sur l'entrée massive de capitaux et donc sur la confiance des financiers internationaux dans la stabilité nationale. En d'autres termes, les États-Unis ont besoin de rester au centre du jeu pour diriger la partie. Ils ont besoin de donner d'eux l'image d'un pays imperturbable pour continuer à profiter de cette image et bénéficier d'un apport de capitaux qui leur permet, en effet, au plan économique, de rester des maîtres de la planète. Mais le jour où on cessera de leur faire confiance, on peut penser que les États-Unis s'écrouleront mécaniquement, précisément parce que une bonne partie de la puissance économique américaine repose sur la confiance des investisseurs. Et donc, non seulement c'est cette économie qui repose sur la confiance extérieure, mais c'est aussi leur armée, parce que leur armée elle-même, elle est alimentée par tous les capitaux que les Américains peuvent débloquer. Donc ça veut dire que ce soft power, ce pouvoir culturel, ce pouvoir de l'image, finit par être au fondement même de ce qu'on appelle le hard power, c'est-à-dire le pouvoir effectif des États-Unis sur le monde. C'est l'imaginaire véhiculé par les États-Unis qui détermine le réel et qui détermine la puissance réelle des Américains dans le monde. Plus les États-Unis parviennent à faire croire qu'ils sont indispensables et qu'ils dominent le monde, plus ils deviennent en effet indispensables et plus ils parviennent à dominer le monde. Donc tout l'enjeu idéologique qui se trouve là, tout l'enjeu idéologique consiste à réussir à faire prendre conscience aux populations et à imposer dans la sphère politique un rapport diplomatique aux États-Unis qui soit différent, qui permettent de mettre en place véritablement de contre-pouvoirs, parce qu'il est probable que le jour où ces contre-pouvoirs se mettront véritablement en place et où on arrivera à lutter contre la domination culturelle américaine, il est probable que ce jour-là, on voit très rapidement et beaucoup plus vite qu'on ne le pense en fait, les États-Unis s'effondreraient. C'est plus ou moins ce que dit Jean-Philippe Marijon, mais c'est aussi ce que disent beaucoup d'analystes venus de tous les bords politiques d'ailleurs. Emmanuel Todd, par exemple, dès 2002, avait déjà tenu des analyses qui, jusqu'à un certain point en tout cas, se situaient même tout à fait dans cette perspective. Donc il y a beaucoup d'analystes aujourd'hui qui pointent ça du doigt. C'est vraiment quelque chose dont nous devons prendre conscience, dont les populations doivent prendre conscience et que doivent intégrer nos hommes politiques.
Voilà, peut-être une dernière question. Oui, alors il y a deux messages, mon cher Thibault Isabelle, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie, beaucoup, à partir du moment où on critique l'Amérique, nous posent la question, c'est premièrement, est-ce que vous êtes un journaliste de gauche? Et forcément, on devrait prendre exemple sur les États-Unis au niveau de la justice. Et c'est vrai que c'est toujours la même chose, c'est que en Europe, si on critique l'Amérique, on est forcément d'extrême gauche ou de gauche.
Oui, et pourtant c'est faux, parce que je crois honnêtement que la critique de l'américanisme, elle vient à la fois de la gauche et de la droite. Je dirais que pour moi, la critique de l'américanisme, c'est pas une affaire de clivage gauche-droite, c'est une affaire entre les partisans du système dominant et ceux qui veulent chercher des alternatives, qu'ils soient de gauche ou de droite. Au fond, la gauche et la droite du système, la gauche et la droite intégrées au système, défendent tous d'une manière ou d'une autre le système américain, parce que les États-Unis sont la figure tutélaire du système dominant. Alors que par contre, qu'on soit de gauche ou de droite, dans les milieux, disons, alternatifs, il y a la recherche d'une critique des États-Unis, exactement pour les mêmes raisons, parce que le jour où s'effondrera le modèle américain, s'effondrera en même temps tout le système qui va avec, et dont profitent nos élites actuelles. Ensuite, sur la deuxième question que vous évoquiez, celle de la justice, moi, j'en reviens à l'idée que j'exprimais précédemment. Je pense très sincèrement que, alors bien sûr, on peut avoir des visions différentes de la justice. On peut mettre en avant, comme le fait plutôt la gauche aujourd'hui, la prévention, l'aspect sociétal des problèmes. Ou bien alors, on peut mettre en avant une politique plus répressive, comme a tendance à la faire la droite. Mais moi, j'ai le sentiment que la critique du système carcéral américain, on peut dresser ce bilan critique, qu'on défende l'une ou l'autre des positions que je viens de présenter, parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que le système carcéral américain ne fonctionne tout simplement pas. Est-ce qu'on est prêt à investir une partie vraiment considérable du budget de la nation dans des prisons qui sont malgré tout obligées, au bout de 2 ans, de libérer des criminels qui avaient été condamnés 2 ans plus tôt à 10 ou 15 ans de prison? Moi, pour ma part, je trouve que c'est aberrant, et je pense que même dans le cadre d'une volonté de politique répressive, c'est contre-productif. Donc à un moment, il faut aussi faire preuve de cohérence dans ses choix budgétaires et ne mettre en œuvre que des politiques qu'on est réellement capable de mener et qu'on est prêt à assumer jusqu'au bout. Je pense que déjà, le fond du problème vient de là.
Et pour vous rejoindre, je me souviens d'une étude qui a été faite sur une petite ville qui est à cheval sur la frontière canadienne et américaine. Donc en fait, vous avez exactement la même ville. Il y a 3 à 4 fois plus d'homicides et de violences du côté américain que du côté canadien. Donc il faut peut-être se poser les questions à ce niveau-là.
Mais oui, tout à fait. Non seulement le système carcéral est engorgé, coûte incroyablement cher à la nation américaine et a une efficacité qui est lamentable, mais en outre, on constate que de manière générale, le taux de criminalité aux États-Unis est un des plus forts du monde et que tout est à repenser dans la justice américaine. Donc on peut vouloir une justice répressive. Moi, pour ma part, j'ai tendance à penser que l'aspect sociétal a aussi une importance et qu'il faut voir les deux aspects de la médaille. Mais encore une fois, peu importe qu'on soit pour la prise en compte du sociétal ou pour une politique répressive, il faut surtout avoir une politique cohérente. Et je crois que les États-Unis n'ont pas une politique cohérente depuis des dizaines d'années, parce qu'ils ont tendance à se laisser emporter par des fantasmes et qu'ils ne voient pas les problèmes dans leur réalité. Ils ne sont pas capables d'analyser les choses d'une manière lucide et posée. Et je crois que c'est tout le problème, de manière générale, de la culture américaine et du style paranoïde dont on a parlé un peu plus tôt.
Parce que c'est Eric, juste avant qu'on vous laisse.
Thibaut Isabelle, je voudrais pas décevoir notre auditeur. Et donc, je répète la question. Le journaliste au téléphone, est-il de gauche?
D'abord, je ne suis pas journaliste. Je suis rédacteur en chef de la revue Crisis, qui est une revue de sciences humaines, donc une revue de réflexion. Et puis en outre, je n'ai pas le sentiment d'être de gauche. Pour être très honnête, je n'ai pas non plus le sentiment d'être de droite. Je pense que le clivage gauche-droite aujourd'hui est profondément réducteur, que les véritables problèmes doivent s'envisager d'une manière à la fois plus large et plus profonde. D'ailleurs, ce clivage gauche-droite, c'est quelque chose d'assez récent. Même les socialistes du 19e siècle ne se représentaient pas comme des hommes de gauche. Les débats aujourd'hui, on le voit bien, sur l'arène politique, échappent dans une large mesure au clivage gauche-droite. Il y a de nouvelles formes de convergence qui apparaissent entre des gens qui étaient considérés comme de droite et des gens qui étaient considérés comme de gauche. Inversement, on voit qu'il y a des gens qui étaient censés être de gauche qui semblent de plus en plus à droite et des gens qui étaient censés être de droite qui semblent de plus en plus à gauche. Alors vraiment, je crois que le clivage gauche-droite aujourd'hui n'est plus pertinent. Il y a des clivages, il faut prendre en compte les clivages, on a des adversaires politiques, il faut les cibler. Mais les vraies problématiques politiques aujourd'hui, c'est pas à la gauche et à la droite, c'est le libéralisme ou l'antilibéralisme, le souverainisme ou l'antisouverainisme. Ça, ce sont des questions qui ont du sens et ce sont les véritables questions qu'il faut poser.
Merci Thibaut Isabelle de votre participation sur Radio Courtoisie. Peut-être une dernière info. En ce moment, le numéro, c'est l'Amérique. Le prochain numéro de Crisis sera sur quoi ?
Alors le prochain numéro de Crisis portera sur la modernité. Ce sera un numéro qui dressera un bilan général non seulement de ce qu'est la modernité, mais aussi de toutes les formes de critiques de la modernité. Et puis j'engage surtout nos auditeurs à venir lire Crisis et à s'abonner à Crisis. Ils peuvent le faire très facilement sur le site crisisdiffusion.com. Crisisdiffusion.com, on tape ça sur les moteurs de recherche et on arrive
et on le trouve sans problème
sur le site. Les revues intellectuelles ont besoin d'abonnés aujourd'hui. Le paysage intellectuel français est particulièrement moribond. On a besoin d'esprit critique. On a besoin d'un discours alternatif à la pensée dominante et à la pensée unique. Et il y a encore quelques revues intellectuelles qui essaient de relever le niveau en France aujourd'hui. Crisis en fait partie. Alors j'engage vraiment tous nos auditeurs à venir s'abonner sur crisisdiffusion.com.
Merci beaucoup Thibaut Isabelle. Nous, on va juste faire une légère pause. Vous restez bien sûr sur Radio Courtoisie, dans les Chroniques de la Vieille Europe. Et puis on va parler avec notre ami Pascal Essérick des origines de l'homme. Voilà, de retour pour cette troisième et dernière partie. Nous allons continuer avec la revue Éléments et discuter de son dossier. Origine de l'homme, le mythe du berceau unique. Cette fois-ci, c'est Pascal Essérick qui s'est occupé de ce dossier. Alors, mon cher Pascal, vous savez très bien qu'il y a un sujet sur l'origine de l'homme. C'est un sujet qui est plus que miné politiquement, idéologiquement. Pourquoi traiter de ce sujet? Vous avez décidé de reprendre les sujets de départ de la nouvelle droite.
Alors, tout d'abord,
ces sujets sulfureux.
Tout d'abord, Patrick, je me permets une petite précision. Nous avons fait un dossier sur les origines de l'homme et non sur l'origine de l'homme. Et c'est une belle entrée en matière pour expliquer pourquoi nous nous sommes lancés dans ce dossier, miné, comme vous l'avez dit, par l'idéologie, la politique, voire la politique internationale. Donc pourquoi traiter de ce sujet des origines? Parce que la question reste en suspens, la question des origines reste en suspens, elle n'a pas été résolue. Et je vais vous faire un aveu. J'étais un béotien sur le sujet avant de travailler avec de grands spécialistes, hein, avec Bastien O'Danielli qui travaille sur ces questions-là depuis très longtemps, hein,
qui s'occupe principalement des pages
scientifiques
de la revue Éléments,
mais pas seulement lui, avec Jean-François Gauthier ensuite. Mais aussi notre correspondant chinois, Huang Liu, et bien sûr Yves Christen, avec qui j'ai eu la chance et le privilège de visiter le Musée de l'Homme et d'être initié à cette passionnante question des origines de l'homme. Donc.
Alors, les thèses en présence, si vous étiez un béotien, moi je suis un ignare. La seule chose que je connaissais, comme je suis un amoureux, alors je sais que sur Radio Courtoisie ça va pas plaire, je suis un amoureux des chansons des Beatles, je connaissais cette fameuse chanson Lucy, qui a permis à ces anthropologues à l'époque d'appeler ce fameux squelette qu'on a trouvé en Afrique, qui était en fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps notre seule origine. L'homme venait d'Afrique, cette fameuse Lucie.
Alors,
il y a pas ce que vous dites.
Non, non. Disons que il y a deux théories. La théorie dominante actuellement, c'est effectivement la thèse monocentriste, donc de l'origine africaine, qui est dite aussi théorie out of Africa. Selon cette théorie, je la résume à grands traits, l'Homo sapiens archaïque n'est apparu qu'une seule fois en Afrique et à une date relativement récente, il y a environ 200 000 ans, peut-être à partir de l'Homo rhodesiensis, et puis il a quitté le continent africain il y a entre 70 000 et 50 000 ans, les estimations varient, pour remplacer petit à petit en Europe et en Asie, pour les remplacer, voire exterminer d'ailleurs, des populations antérieures du type Homo erectus, d'où dérive par exemple l'homme de Néandertal.
Ça, c'est la thèse que nous présente depuis des années le paléo-anthropologue français Yves Coppens, qui est l'un des découvreurs de Lucie.
Alors, dans un premier temps, ça s'est surtout appuyé sur le fait que c'est sur le continent africain qu'ont été découverts les plus anciens hominidés connus à ce jour, hein, héritiers d'une lignée qui a donné naissance d'un côté à l'homme et de l'autre côté aux grands singes, gorilles et chimpanzés. Donc on peut citer Tournaille, on peut citer Aurorin, on peut citer la fameuse Lucie. Alors, la théorie, vraiment pour que ce soit clair, la théorie Out of Africa s'appuie surtout sur la génétique et plus spécialement sur ce qu'on appelle l'étude de l'ADN mitochondrial. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ADN transmis par les femmes. Le constat de base, c'est que les populations sont plus les populations sont éloignées géographiquement de l'Afrique, et plus la diversité génétique diminue. Donc, ce qui donne à penser que c'est en Afrique que s'est accumulé l'essentiel de la diversité génétique humaine. Donc, dans la version, canonique, c'est le terme utilisé par Bastien O'Danielli, dans la version canonique de cette théorie, les 6 à 7 milliards d'hommes qui vivent aujourd'hui sur Terre auraient donc hérité de l'ADN mitochondrial d'une femme qui a vécu en Afrique il y a environ 200 000 ans. Donc c'est la thèse de l'ève mitochondriale africaine. Alors, face à cette thèse, Out of Africa, on trouve une hypothèse concurrente qui est dite de l'origine multirégionale. Donc, on l'appelle aussi continuité avec hybridation. Donc, elle a été défendue par plusieurs scientifiques, scientifiques allemands, américains, chinois aujourd'hui. Elle postule donc que le passage de l'Homo erectus à l'Homo sapiens s'est produit en réalité dans la plupart des régions du monde et non pas seulement en Afrique. Donc, c'est un vaste métissage qui a ensuite mélangé les sapiens venus d'Afrique et ceux apparus sur place.
Oui, donc, parce que quelque part, cette thèse de Lucie, c'est un peu la trace unique, un peu la race pure, c'est ça vient d'Afrique, point barre. Il n'y avait strictement rien, alors que certains scientifiques disent qu'ils n'ont pas trouvé pour l'instant de preuve de ce multirégionalisme parce que on veut à tout prix avoir une preuve matérielle, c'est-à-dire retrouver des ossements un peu partout qui pourraient prouver cette thèse-là. C'est assez marrant de voir que on n'évolue pas. Hein. Même Yves Coppens, qui au départ était un peu pourrait presque changer, mais il est revenu en disant non, l'Out of Africa, c'est bien ça, il n'y a que ça. Là, il y a le côté politique presque qui rentre.
Non.
On ne veut pas remettre en cause.
Oui, si, mais si. Malgré tout, il y a eu une remise en cause. Vous parliez du paléo-anthropologue français Yves Coppens. C'est bien parce qu'il s'est rallié à la thèse multirégionale. Qu'il y a eu cette ébullition. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il dit ça a été un peu un... Enfin, dans ce milieu-là, ça fait l'effet d'une bombe. L'Afrique n'est pas le seul berceau de l'homme moderne. Je ne crois pas que les hommes modernes aient surgi d'Afrique il y a 100 000 à 60 000 ans. Je pense que les Homo sapiens d'Extrême-Orient, par exemple, sont les descendants des Homo erectus d'Extrême-Orient. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, les découvertes se sont accumulées, hein, qui ont écorné, qui ont bousculé la théorie Out of Africa. Alors il y a eu d'abord les travaux de l'Institut Max Planck qui a montré que près de 4% de l'ADN est commun aux Néandertaliens et aux Homo sapiens eurasiatiques, alors qu'on n'en retrouve aucune trace, de Néandertal dans l'ADN des Africains. Il y a eu ensuite, en 2013, on a découvert dans le génome des Européens un gène lié à l'immunité qui semble être issu du génome de l'homme de Néandertal, ce qui renforce encore l'hypothèse d'une hybridation entre les deux lignées. Et en réalité, il y a la thèse de la pluralité des espèces humaines gagne en intensité. Hein, il y a surtout l'homme de Denisova, hein, qui est vieux de 48 000 ans, hein, à peu près, qui a été identifié assez récemment, hein, en 2010, dans la région de l'Altaï, en Sibérie, et qui représente une espèce humaine dont on ignorait tout il y a seulement... il y a seulement moins de 10 ans.
Oui, parce que les thèses de l'époque, c'était que, en fait, le Néandertal avait disparu, le Cro-Magnon est arrivé, il y avait un côté comme ça, comme si tout disparaissait, et on s'aperçoit qu'en fait, sur le plan des ADN, il y a eu des hybridations, il y a eu des mélanges, etc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que cette thèse de cette
tout
idée.
À fait, tout à fait. Là, je vais prendre pour aller... c'est tout à fait vrai. Il y a eu un séquençage de l'ADN d'un Néandertalien qui est vieux de 50 000 ans, qui a été découvert lui aussi à Denisova et qui a montré qu'il s'est croisé à la fois donc, avec l'homme de Denisova, mais aussi avec l'homme moderne, mais aussi avec l'Homo erectus. Au total, sont 4 espèces humaines qui se seraient ainsi mélangées. Alors, que les Néandertaliens, parce que c'est ça qui est important, que les Néandertaliens et les Denisoviens aient contribué au génome des populations humaines modernes non africaines, tout à fait, mais à l'encontre de l'un des postulats qui est postulat fondateur de la théorie Out of Africa. Hein.
Oui, parce que, alors, pour rappeler juste aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que l'homme de Denisova, qui est vieux de 48 000 à 30 000 ans, ouais, a été identifié en 2010, donc c'est assez récent, à partir d'un auriculaire qui a été découvert dans une grotte en Sibérie. Ouais. Et donc là, on n'est plus en Afrique. Là.
Non, exactement. Et donc... En réalité, cela montre quoi ? Cela montre que l'homme moderne n'est pas seulement d'origine. Alors, entre guillemets, d'origine africaine, c'est-à-dire que n'est pas seulement sortie d'Afrique, mais que il y a plusieurs implications. Hein. Cela veut dire aussi qu'il faut s'interroger sur la notion d'espèce, parce qu'en théorie, les espèces ne sont pas interfécondes. Or, les hommes modernes et les néandertaliens appartiennent bien à des espèces humaines différentes. Quand nous sommes allés au musée de l'homme, donc on a bien pu le voir, hein, on peut au premier coup d'œil distinguer leur squelette.
Qu'est-ce qui fait qu'en France, parce que c'est principalement en France qu'il y a ce genre de débat, on bloque sur une thèse qui serait différente de la haute Afrique? C'est politique, c'est typiquement français. Là, je vous piège avec une question.
Non. Mais c'est pas typiquement français. Hein. La recherche occidentale, il y a une grande bataille en ce moment. Il y a une grande bataille entre la recherche occidentale et la recherche chinoise. Hein. On publie cet article de notre correspondant chinois et qu'on a intitulé « La géopolitique des squelettes ». En réalité,
ça, c'est des thèses que les Européens et les Américains ont eu une tendance à un peu moquer. Comme si les Chinois n'étaient pas capables d'avoir des scientifiques sérieux.
Ah bah oui, chaque découverte chinoise est accueillie, mais alors avec un scepticisme. Je l'ai sous les yeux, donc je régulièrement, la paléontologie chinoise est accusée de nationalisme. Je vais reprendre le mot du généticien français, donc André Lagané. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie ne sont pas lecteurs de Charlie Hebdo, mais André Lagané, donc alias Dédé La Science, mais qui est aussi directeur du laboratoire d'anthropologie et de biologique de Musée de l'Homme, donc avait lancé un oukase comme peu de scientifiques peuvent en lancer. Il avait dit « Les scientifiques orientaux, au nationalisme mal placé, veulent à toute force que l'homme de Pékin et d'autres fossiles chinois soient leur ancêtre. La paléontologie chinoise est une paléontologie biaisée. Il y a d'autres nombreux parmi nos collègues chinois sont ceux qui refusent l'idée d'une origine africaine des Asiatiques modernes et veulent absolument que leur homme moderne chinois soit le plus ancien possible. » Alors. Sur cette question-là, on est vraiment au cœur d'une... Je trouve que notre correspondant chinois a bien... Quand il a mis géopolitique des squelettes, c'était particulièrement bienvenu parce que le paléontologue chinois qui est le plus connu, hein, qui s'appelle Wu Xinzi, je ne sais pas si je le prononce correctement. En fait, ça ne le bouleverse pas trop. Il a été vraiment à l'origine de plusieurs grandes découvertes, de plusieurs grandes controverses. Dans plusieurs entretiens, il est assez droit dans ses bottes. Hein. Pour lui, il y a une continuité complète entre les Homo erectus de Chine, le fameux homme de Pékin et les Chinois actuels. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que Yves Coppens s'était rallié à la thèse multirégionale. Ouais. Il se rallie à la thèse multirégionale avec à ses côtés ce fameux Wang Zizi. Il abonde dans son sens. Hein. Alors, c'est vrai que la thèse va à l'encontre de beaucoup d'anthropologues occidentaux. Il faut dire que les Chinois ne sont pas seuls. Hein. le père de la thèse multirégionale, c'est un Américain. Il s'appelle Milford Volpoff. Il y a aussi un Australien qui est très important, qui travaille depuis les années 80.
Même il y a quelques Français qui commencent à se rallier. Non, mais bien sûr, en dehors de Yves Coppens, qui n'est plus vraiment... qui est un peu à la retraite. Hein, il fait les plateaux télévision.
Non.
Ouais, il faut quand même le dire.
Non. Il y a des... effectivement, il y a des paléontologues qui travaillent, il y a des paléontologues français. Moi, je voudrais citer Anne Dambricourt-Malassé, qui est directrice de la mission archéologique française en Inde. Je voudrais citer aussi sa collègue, Claire Gaillard, qui est spécialiste des outils lithiques indiens. Eh bien, figurez-vous que récemment, c'est-à-dire qu'il y a, moins de 6 mois, ils ont tout simplement trouvé à Massol, au pied de l'Himalaya, des ossements vieux de 2,6 millions d'années, alors que les premiers représentants du genre humain sont censés avoir quitté l'Afrique il y a seulement 1,5 million d'années. Donc il va falloir bien commencer à réfléchir et donc à reculer dans le temps la sortie d'Afrique des premiers hominidés. Ou alors admettre, la thèse multirégionale, admettre l'existence donc d'un second foyer d'hominisation en Asie. C'est tout l'enjeu en réalité de ces débats qui sont absolument passionnants. Une fois qu'on met le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter.
Alors, il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui nous envoie ce petit message intéressant. Le professeur Jérôme Lejeune a établi par la génétique qu'il ne pouvait y avoir qu'un couple initial. Du reste, la théorie mutationniste est impossible car elle viole outrageusement la loi des grands nombres de Borel, voire le livre Hasard et certitude de Georges Salé, biologiste et statisticien, qui est le premier à calculer la probabilité qu'une série de mutations aléatoires donne un nouvel organe. Et il a constaté que le résultat a de quoi faire se retourner Borel dans sa tombe. Voilà pour les messages des auditeurs.
Alors on a une minute. Vous avez... L'évolution du genre humain n'est ni linéaire, elle n'est ni univoque, l'humanité, et ça a toujours été l'esprit en tout cas d'éléments, l'humanité est plurielle.
Alors voilà, c'est un dossier passionnant. Il est encore en kiosque, vous pouvez le trouver. C'est le numéro 159. Il y a aussi tout des papiers sur les migrants et un entretien avec Jacques Julliard. Donc, c'est Les origines de l'homme. Je vous le conseille fortement. Nous, on va se retrouver dans 4 semaines. Alors, il va y avoir un petit changement dans notre grille, car vous ne pourrez plus réécouter notre émission à 21h30 le jeudi. Je vois déjà un nombre d'auditeurs qui est désespéré, mais c'est tout simplement qu'arrive sur notre antenne un nouveau libre journal de la nuit le jeudi. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nos auditeurs. Donc nous souhaitons bon courage à nos amis du jeudi soir. Quant à nous, nous aurons bien sûr une rediffusion, mais c'est le vendredi à la même heure, 21h30. Mais je suis sûr que Henri de Lesquin vous donnera plus de détails dans sa prochaine émission sur ce changement de grille. Bonne soirée à tous et restez bien sûr sur Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick Péal, assisté de Pascal Esric, diffusé en direct mardi 26 avril 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 29 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.